Médée est-elle la femme tragique par excellence ? D'elle, on sait surtout une chose. Dans la pièce de Ripide, notamment, elle tue ses deux enfants. Mais qui est-elle vraiment ?
Médée, c'est une femme complètement protéiforme. C'est une mère, c'est une amante, c'est une femme, c'est une femme enfant, c'est une séductrice, c'est une femme qui souffre. C'est pour ça que c'était très, très agréable à jouer, d'ailleurs.
Jouer Médée, lire Médée et peut-être être Médée en puissance, si ce n'est pas en acte. Que nous dit Médée de la puissance du tragique ? Pierre Judet de la Combe est avec nous en studio ce matin pour nous aider à connaître et qui sait, à aimer Médée. Bonjour Pierre Judet de la Combe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes venu à plusieurs reprises à ce micro parler notamment d'Homère, de l'Odyssée d'Homère. Mais vous avez aussi traduit avec Myrto Gondikas la pièce de Ripide, donc qui s'appelle Médée, dont on va parler ce matin, qui ouvre cette série autour de quatre tragédies antiques. Et je commencerai avec cette question que je me pose et que je posais aux auditeurs. Est-ce qu'on peut, sachant que Médée a tué ses enfants, est-ce qu'on peut aimer Médée ?
Eh ben oui, c'est ça tout le paradoxe. Les personnages tragiques sont comme ça, ils sont horribles, monstrueux, déchaînés. C'est très gore aussi la tragédie, mais il y a quelque chose d'attachant, je veux dire. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire c'est comme Achille dans l'Iliade. Et alors, toute la difficulté quand on lit, quand on traduit, quand on joue Médée, c'est pas de la réduire à une cause. C'est-à-dire qu'elle embrasse des causes, elle prend des discours féministes, c'est vrai, ça on va en parler, etc. L'étrangère. Mais, je veux dire, elle est tout ça, comme je viens de le dire Isabelle Huppert, elle est tout ça à la fois, mais surtout, c'est un acte d'une violence inouïe. Mm-hmm. Donc, elle tue ses enfants. Alors, faut bien savoir que tuer ses enfants, c'est aussi, d'une certaine manière, se tuer soi-même. En grec, c'est le même mot. Être autoktonos, ktonos, c'est tuer. Auto, c'est soi-même. C'est comme suicide, mais ça veut dire à la fois tuer soi-même et tuer des proches. Et donc, elle tue les enfants pour plusieurs raisons, ça on y reviendra. Mais c'est une espèce d'arrachement, c'est une impossibilité majeure. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de gouffre qui s'ouvre, alors que dans la pièce, c'est elle la divinité. Les dieux n'interviennent presque pas. Ils l'aident simplement, ils sont de son côté, parce qu'elle est la petite fille du soleil. Et un mortel, héroïque, magnifique, comme Jason quand même, mais qu'il fallait bien aider, tellement il était beau. Mais je veux dire, il l'a trahi. Et donc, mais c'est elle qui fait le destin. Et c'est ça qui est fabuleux dans cette pièce.
C'est elle qui le fait, ça veut dire que le destin ne la précède pas.
Non.
Elle est maîtresse de son destin.
Elle est maîtresse absolue dans une impuissance absolue. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est petite fille du soleil, donc c'est une espèce d'âge d'or humain, donc c'est en Géorgie, à la Colchide actuellement. Et donc, elle vient de là, il y a la toison d'or, il y a dragon, il y a une richesse infinie, tout ça. Alors, tout ça, elle le supprime, ou elle perd sa famille pour ce bel homme qui est Jason. Et, je veux dire, Jason l'a trahi. Alors ça, on y viendra, parce que c'est très dur. Jason, c'est un grec normal. Lui, il fait ce que tout homme grec est censé faire. Dire, il a une femme, bon, il l'aime bien, il l'aime vraiment, il a des enfants, mais c'est un réfugié. Donc, il a perdu toute fonction sociale, de certaine manière. Donc, il épouse la fille du roi.
Donc, il quitte Médée pour la fille du roi Créon.
Il a épousé la fille du roi. Alors que toute son aventure avec Médée, donc la toison d'or, ce sont, comme on dit dans le jargon des sciences sociales, ce sont les épreuves qualifiantes pour devenir roi, pour devenir héros. Il a la stature du héros.
Mais c'est ça son but.
C'est ça son but, parce que il devait avoir un trône à Iolcos, et là, son oncle Pélias, lui a ravi le trône, ne veut pas lui donner, mais des conditions qui sont des épreuves héroïques, comme on voit d'habitude, mais ces épreuves héroïques sont censées le faire disparaître. Lui, il gagne à chaque fois grâce à Médée. Et donc, ensuite, il revient chez lui, à Iolcos, et là, l'oncle lui cède pas la place, et Médée, qui est magicienne, dit aux jeunes filles, aux filles de cet oncle, je peux rajeunir votre père, si vous voulez, il suffit de le faire bouillir dans un chaudron, et vous allez voir, il va devenir tout jeune. Ce qui est pas faux, ça peut marcher. Ça marche sur le père de Jason. Et alors, elle découpe un bélier, elle le met dans l'eau bouillante. Le bélier s'anime, évidemment, dans l'eau bouillante. Elle dit, vous voyez, il est encore plus vivant qu'avant. Je l'ai tué, mais il est beaucoup nettement vivant. Donc, elle tue le père, les filles, elle le dépece, comme ça, elle le met dans l'eau bouillante. Et puis, évidemment, il boue, quoi. Donc,
il meurt.
Il cuit. Il meurt. Donc, il est chassé. De là, Jason, il va à Corinthe. Et là, il est, voilà, il est dans les marges. Et donc, pour remplir son programme de héros, ce qu'il est, et ce qu'il devait être, il quitte sa femme et ses enfants et il épouse la fille du roi. Alors, ce qui est passionnant, c'est que pour un Grec, ça faut vraiment l'avoir en tête, c'est normal. C'est-à-dire que c'est une chose qu'il fait...
De privilégier son, sa son carrière statut. Politique, on va dire, voilà. À son épouse, c'est ça?
C'est moins sa carrière politique que sa naissance. Et tout, c'est,
ouais. On est quand même... Il est né pour être roi.
Il est né pour... Il est fait, c'est son essence d'être roi. Et Médée, alors c'est ça qui est extraordinaire, puisque donc les dieux n'interviennent pas, c'est elle qui l'a choisi, cet homme, que Pindare nous présente comme un héros magnifique, et qui le fait vaincre. Et ensuite, elle s'impose comme un destin, c'est elle qui impose le destin. Alors, on dit souvent, Médée, c'est la vengeance. Alors, c'est vrai que c'est la vengeance, et ça, faudra quel type de vengeance. Mais c'est elle qui décide qu'il est coupable. C'est la victime qui dit, ce qu'il a fait est un crime. Alors que pour lui, c'est parfaitement normal, et pour la plupart des gens, c'est normal. Sauf le cœur. Alors ça, c'est passionnant. Le cœur, ce sont des femmes mariées de Corinthe. Et tant que le Médée dit « je vais supprimer ma rivale et supprimer son père », le roi quand même, le cœur est d'accord, il dit, donc c'est Emmanuel Riva qui faisait le cœur là, à Avignon, et c'était extraordinaire, je dirais, le cœur, il dit « enfin on va avoir, les fleuves remontent leur courant, on va avoir... »
Alors, voilà, donc l'adaptation dont vous parlez, donc on parle de la pièce d'Euripide, parce qu'il y a plusieurs versions de Médée, c'est celle que vous avez traduite, elle a été mise en scène par Jacques Lassalle en 2000 à Avignon, avec Isabelle Huppert dans le rôle titre, que vous avez entendu en début d'émission, on va l'entendre à nouveau, parce qu'elle parle justement de la spécificité de la plume, du style d'Euripide dans l'interprétation de Médée. Avant de plonger dans la pièce, essayons de présenter ces éléments de contexte.
Grâce à la magnifique adaptation de Pierre Judet de Lacombe et de Myrto Gondikas et de Jacques Lassalle, qui a aussi participé à l'adaptation, qui rend tout d'un coup cette langue complètement immédiate, complètement accessible. Il y a même probablement des choses qui pourront paraître comme des anachronismes, alors qu'en fait ça n'en est pas, mais ça a la vertu justement de rendre la langue incroyablement directe et discible par l'acteur, justement. Et ça, c'est un plaisir très grand que tous les comédiens et moi-même, on éprouve tous les jours. Et Euripide est peut-être pas celui qu'on croit. C'est vrai que quand on dit tragédie grecque, bon, il y a des tas de fantômes qui viennent un petit peu obscurcir et entraver les esprits, alors qu'en fait, il nous donne à voir d'abord une femme au cœur de sa souffrance, et en pleine lucidité de cette souffrance. Et ça, c'est, pour moi, c'était une grande découverte. C'est-à-dire que, au fond, il humanise Médée avec tout ce que ça comporte de mise à distance, de réflexion sur son propre destin. C'est une Médée très responsable, d'autant plus pathétique, plongée au cœur d'une souffrance affective et politique énorme. Mais c'est une Médée très, très proche.
Nous sommes nous les femmes, la créature la plus misérable. D'abord nous devons à très grand frais acheter un mari et prendre un maître qui disposera de notre corps. Et ce dernier mal est plus douloureux encore que l'autre. Là se livre la plus grande des batailles. La prise sera-t-elle mauvaise ou bonne? Car les divorces ne font pas la gloire des femmes. Et il n'est pas possible de récuser un mari. Entrer dans des mœurs et des lois inconnues, la femme doit être prophète, car sa famille ne l'a pas instruite. À quel homme va-t-elle s'associer dans son lit? Si dans ce domaine, notre fatigue n'est pas sans effet, le mari partage notre maison, en accepte le joug, et la vie est enviable. Sinon, il faut mourir.
La condition de la femme, selon Médée, la Médée d'Euripide sur France Culture, les chemins de la philosophie, on parle de tragédie hein, jusqu'à jeudi. Aujourd'hui donc, de Médée dans cette traduction de Pierre G. de Lacombe avec Myrto Gondikas. Pierre G. de Lacombe qui est avec moi en studio ce matin. Vous venez d'entendre la voix d'Isabelle Huppert, alors interpréter Médée, mais avant cela, elle parlait de cette interprétation. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle lorsqu'elle dit que Euripide humanise Médée, au fond qu'il en fait une femme quasiment ordinaire? Elle dit c'est une Médée proche de nous.
Alors d'abord, ça fait plaisir d'entendre une actrice parler comme ça du travail qu'on a fait Myrto et moi. Donc, alors elle dit adaptation, ça c'est une habitude de théâtre, c'est une traduction la plus littérale possible, mais en même temps avec Myrto, comme on travaille beaucoup avec le théâtre, on imaginait la diction. Et Jacques Lassalle a été magnifique parce qu'il s'attendait pas du tout à ce type de traduction. Il avait une certaine idée de Euripide, ça faut l'avouer. Il a vu quelque chose, une espèce d'ovni, et lui et tous les acteurs ont marché. On s'est dit, on y va, on sait pas ce qu'on pensait, mais on y va. On a expliqué pendant des semaines en quoi, bon, on a fait de la philologie avec le travail à la table. Ça, c'était un moment extraordinaire. Alors, c'est vrai que Isabelle Huppert a raison, Euripide l'humanise. Alors, Dieu sait si on lui a reproché. On dit, voilà, mais tu vulgarises, Aristophane déjà dit ça, tu fais les grands héros tragiques, t'en fais des êtres communs. Mais dans le même mouvement, et c'est ça qui est génial dans cette pièce, c'est qu'il la divinise. C'est-à-dire, c'est une divinité qui est condamnée à parler comme un être humain. Et en plus, il gomme presque tout ce que Sénèque va reprendre avec fureur, si on peut dire, la Médée magicienne. Il faudra bien quelques poisons, des trucs comme ça pour éliminer les autres. Mais je veux dire, on la voit pas du tout dans des imprécations nocturnes. Elle résonne, elle parle comme on a envie de dire presque un grec, comme un sophiste avec ce qu'on appelle les dichotomies, ceci ou cela, etc. Quand on la vie sexuelle, c'est ceci ou cela. Elle met du raffinement rhétorique pour les choses les plus communes, et c'est ça qui fait que c'est passionnant. Et comme dit Isabelle Huppert, elle est tout à fait responsable. Elle sait le mal qu'elle va faire.
Pas de la folie. Elle est lucide.
Pas du tout. Elle est justement, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est maîtrisé d'un bout à l'autre. Jusqu'à la fin, quand elle injurie le pauvre Jason. Mais en même temps, c'est la folie... Non, c'est la rhétorique, c'est la maîtrise au service de ce qu'on peut appeler une folie quand même, c'est-à-dire une violence inouïe contre ses enfants et contre soi. Mais elle est prisonnière des violences des autres, les violences masculines, les violences politiques.
Alors ça, on l'a entendu dans la tirade qui ouvre quasiment la pièce, hein, en tout cas là, l'entrée en scène de Médée qui va être sur scène presque toute la pièce.
Elle reste presque tout le temps, oui.
Et c'est sa première tirade, elle est entrée sur scène en disant « Femme de Corinthe, je suis sortie de la maison pour que vous ne me critiquiez pas ». Et cette tirade d'un féminisme ultra-contemporain.
Alors là, c'est féministe. Ça, c'est effectivement, c'est-à-dire que... Alors c'est passionnant parce que donc il y avait... faut dire que Médée était joué par un homme. Et le groupe des femmes qui disent « Oui, on est d'accord avec toi » sont joués par des hommes. Il n'y avait aucune femme sur la scène. Et ça, le machisme, la domination masculine, ça s'apprend. Les hommes doivent devenir des femmes. Il faut être trans pour être vraiment homme. Sinon, on ne sait pas ce que c'est.
À l'époque d'Euripide.
Et ça, Achille a été trans, Héraclès aussi, etc. Il faut passer par la condition féminine pour mieux dominer. Et le théâtre permet ça. Et le pauvre Euripide qui fait prononcer cette tirade par Médée s'est fait accuser, selon Aristophane qui s'en amuse, d'antiféminisme, donc d'être le plus misogyne des auteurs, parce que Médée a beau dire ça, elle tue ses enfants. Donc elle est quand même un monstre. Donc il joue là-dessus. Donc il y a cette ambiguïté. Alors simplement une chose, c'est l'entrée en scène de Médée qui est très comme ça, fait la grande rhétorique magnifique. Mais juste avant, elle a poussé des cris off qui sont chantés et des cris où elle dit je vais tuer mes enfants. Je vais tous les tuer. Donc tout de suite, ça c'est comme le dieu qui parle au début d'une pièce de Euripide, qui souvent est là, un dieu, dit je vais faire ça. Sauf que là, elle le dit dans un langage poétique, chanté. Et là, ça c'est la Médée réelle, si on peut dire. C'est la Médée qui n'est pas dans l'apparence d'un discours qu'elle tient en fonction de l'interlocuteur. Là, c'est elle. Et donc, dans sa douleur absolue. Et là, elle chante. Et ça, on l'entendra plus jamais. Cette voix off de Médée, c'est une voix qu'on n'entendra strictement plus. Et c'est ça le théâtre. Quand elle devient visible et donc quand elle parle là devant les gens, elle tient des discours hyper grecs, si on peut dire, elle la barbare, pour faire une chose que un grec normalement devrait réprouver. Mais c'est cette tension qui fait son personnage.
Donc il y a toute une réflexion autour de l'utilisation du langage dans le théâtre, mais aussi en Grèce à cette époque-là. Vous parlez de rhétorique, il y a cette opposition entre les sophistes et la dialectique, on va dire, qui correspondent à deux utilisations différentes du langage.
Voilà, c'est ça. Et donc il y a les sophistes. Et alors on a souvent reproché, ça c'est depuis les romantiques, on a reproché à Euripide d'être trop rationnel, d'être trop victime de Socrate, c'est-à-dire de la dialectique, ou victime des sophistes.
Ils se connaissaient d'ailleurs les deux.
Alors ils se connaissaient. D'ailleurs, à un moment, il y a Médée réfute Socrate. Socrate a dit « Nul n'est méchant volontairement, parce que la volonté, ce qu'on va faire, et c'est guidé par la connaissance. Si on sait ce qui est bien et mal, on fera que le bien. Mais dès quand elle va tuer ses enfants, on dit « Je sais très bien que c'est très mal, mais je le fais quand même. »
Donc là, ah oui, donc elle donne tort à Socrate, en effet.
Les philosophes sont, sont mis par terre, quoi. Je veux dire, il suffit d'agir. Et donc, il y a toute une réflexion sur le langage, et alors, et des gens comme Nietzsche, à mon avis, se sont complètement trompés quand ils ont dit que Euripide n'était pas tragique. Au contraire, c'est la rhétorique, même cette dialectique, permet le tragique et permet encore l'émotion encore plus forte. Et c'est ça qui est grandiose dans ce personnage.
Au fond, Nietzsche reproche à Euripide d'être déjà, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais de basculer dans le déclin de la tragédie antique.
Exactement.
Alors qu'on est du côté des âmes et plus des dieux.
Alors exactement, il dit voilà, il n'y a pas d'arrière-monde mythique dans Euripide. Ils sont quand ils entrent en scène, ils entrent anatomiquement. Il dit comme un pur corps, comme ça. Ils font de la dialectique, ils ont des passions. Alors ça, il n'a pas vu que ça, c'est l'art tragique. L'art tragique, c'est l'art de quoi? Du visible. Tout est visible. On peut tout montrer. Même les divinités les plus horribles, on peut les montrer. Et là, ce qu'a fait Euripide, ce qui est vraiment génial, c'est de dire tout est dans la parole et dans les actes, l'acte horrible. Mais je veux dire, tout est comme on dit. Et Médée, je peux dire que quand elle parle comme ça, elle parle devant sa bouche. Elle capte des discours. Et le seul discours réel ou profond d'elle, ce sont ses cris au début. Donc là, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que parler, qu'est-ce que... Et donc, alors effectivement, les questions politiques, étrangers, pas étrangers, hommes, femmes, etc., parler des rois, qu'est-ce que c'est, les dieux. Et là, mais ça, ce sont des thèmes que reprend Euripide, et ce qu'il faut, ce qu'il arrive à faire, c'est faire parler ses personnages dans cette espèce d'instabilité permanente.
Et ça, c'est Euripide est le premier à l'apporter. Il est contemporain de Sophocle, hein.
Strictement, oui.
Voilà, c'est ça. Mais apparemment, il n'aurait reçu que 5 fois la couronne au concours dramatique d'Athènes. Ça veut dire qu'il n'avait pas autant de succès.
Non, alors à la fin un peu plus, mais Médée, ça, c'est la première tragédie vraiment tragique de lui que l'on a, mais il a 50 ans déjà. Et il a perdu. Il était 3e dans la compétition, 3e sur 3, quoi. Et alors, il est contemporain de Sophocle, il est né après, mais toute sa vie, il a embêté Sophocle, quoi. Donc, toute sa vie, il a fait le contraire de ce que faisait Sophocle.
Ouais, dans quel sens?
C'est-à-dire que Sophocle, quand même, il y a une espèce de pompe, c'est très sérieux, c'est grandiose, hein. Sophocle, ce qui est génial, il arrive à rendre la sophistique tragique. Ça, c'est quand même un coup de force dans son langage. Et lui, Euripide, il dit, oh là là, pourquoi passer par tout ça? Non, on peut être plus léger, on peut chanter beaucoup, faire chanter les esclaves, qui on veut, etc. Comme il dit, Aristophane lui fait dire, moi, je suis démocratique. Et donc, c'est plus simple, Euripide, d'une certaine manière, mais c'est le théâtre qui dit, il n'y a pas besoin de se référer à des mondes, des arrière-mondes, etc. L'horreur est dans ce qu'on va faire presque sur scène, dans l'immédiat, dans un déchaînement que l'on ne domine pas. Mmh. Alors, ce que nous appelons l'inconscient, etc., chez eux, chez les Grecs, c'est les dieux. Et donc, lui, il va montrer les dieux en acte dans la cruauté. Et là, c'est Médée elle-même qui est la divinité qui est cruelle. Donc, on n'a pas des personnages comme Antigone, Oedipe, etc. Ça, Euripide, c'est pas ça qui l'intéresse, vraiment.
Alors, reprenons le fil de la pièce, justement. On va retrouver Médée, qui va à la fois insulter Jason, qui quand même vient de la quitter pour une femme autre qu'elle, et en même temps, ça va être l'occasion de revenir sur tout ce qu'elle a fait pour Jason, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers de cette pièce, et je pense qu'ils sont nombreux, Médée, on la lit pas vraiment, on l'étudie malheureusement presque plus, justement. Alors écoutez, Médée raconter ce qu'elle a fait pour Jason, ce sera l'occasion aussi de comprendre la façon d'interpréter ce personnage-là, qui semble difficilement interprétable, tellement il paraît monstrueux.
Celle au total, c'est le nom que j'ai pour toi, la plus grande violence que peut la langue contre un lâche. Tu es venu vers nous, tu es venu toi, l'ennemi le plus grand des dieux de moi, de tout le genre humain. Non! Il n'y a pas d'audace ni d'héroïsme à regarder en face ses amis quand on leur a causé du mal. J'y vois la plus grande de toutes les maladies humaines. L'absence de pudeur. Mais tu as bien fait de venir, car je vais soulager mon âme en t'insultant. Et toi, tu vas être fâché de t'entendre insulter. Je commencerai par dire en premier ce qui fut premier, comme le savent tous les Grecs, qui montèrent avec toi sur cette même coque de l'Argo, Je t'ai sauvé, Jason. Lorsqu'on t'envoyait garder les taureaux qui soufflent le feu et que tu devais leur passer le collier, puis ensemencer les sillons de mort et le dragon qui, dans l'étreinte de ses boucles retorses, préservait la peau toute d'or sans jamais dormir, je l'ai tué et j'ai levé vers toi la lumière du salut. De mon côté, j'ai trahi mon père et ma maison et suis arrivé à Iolcos sous le peignon avec toi, plus passionnée qu'intelligente. Et j'ai assassiné Pélias en lui donnant la mort la plus douloureuse par la main de ses propres enfants. J'ai supprimé toute ta maison.
Alors, il y a tellement de choses à commenter, Pierre-Julien Delacombe, jusqu'au bruit des cigales qu'on entend, évidemment. On est en 2000, on est à Avignon, hein, on l'a dit. Donc, au moment où elle insulte, ou Médée insulte Jason de salaud total, les cigales se mettent à chanter, ce qui est quand même ce qu'on pourrait pas inventer. Alors, Jean-Frédéric, qui est à la prise de son ce matin derrière la vitre, faisait remarquer que la voix d'Isabelle Huppert, on ne la reconnaît pas. On sait que c'est elle, et elle a trouvé une espèce de ton particulier qui fait qu'on a du mal à l'identifier. C'est exactement Médée qu'on entend.
Oui, c'est-à-dire c'est ça, c'est-à-dire que c'est, on voit que c'est très raisonné. Alors il y a le salaud total et Dieu sait qu'est-ce qu'on n'a pas entendu parce que on nous a dit vous vulgarisez, etc. Alors qu'en grec, on peut le dire, c'est o pankakiste, c'est le tout à fait vil, affreux, nul, quoi. C'est très très violent. Et justement, on s'est dit avec Myrto, mais Isabelle Huppert, elle saura dire cette énormité, qui est en grec, et ensuite faire un commentaire. Et c'est ça l'élégance, c'est de pouvoir être vache.
On insulte et ensuite on explique.
Et ensuite on explique. Et ça, c'est grandiose, quoi. Et ça, c'est le faire. Et là, effectivement, alors, c'est vrai que là, c'était Avignon, où c'est très dur de jouer dans la cour d'honneur, quand même. Et donc, il faut proférer, quoi. Et là, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on entend à travers, il y a ces raisonnements, où elle dit, j'ai fait ceci, 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 et l'autre va répondre, quand même. C'est pas nul, non plus, sa réponse. Et donc, mais avec une voix de haine. Et c'est ça qui est, je trouve, fort. C'est vrai qu'elle devait parler fort à l'Odéon, c'était un peu différent à cause d'Avignon. Mais justement là, on entend la tension alors même qu'elle dit « je vais t'insulter, ça me fera plaisir ». Donc, mais c'est hyper violent. Je trouve que ça c'est du grand jeu, évidemment.
Mais ce qui est formidable, enfin ce qui est très surprenant, c'est qu'on se surprend à rire, ou en tout cas à sourire en l'écoutant.
Ah oui, parce que ça, dans The Repeat, très très souvent, même chez Eschyle et même chez Sophocle, souvent on joue la tragique avec un air, une componction comme ça, un air hiératique, c'est idiot d'abord. La tragédie, c'était une immense fête avec de la musique, du bruit, des danses, etc. C'était comme un grand carnaval, et très beau, très 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 luxurieux, très clinquant, avec des couleurs, et cette fête du langage. Donc on sait que l'horreur arrive. Mais comment dire, on jouit de toutes ces dérapages de langage qui font que bon, il y a le rire qui est là, et puis après on peut pleurer à la seconde d'après. On est mis dans un état de transe, c'est ça que Platon n'aimait pas la tragédie, mais il a su la définir. On est hors de soi en permanence, parce que tantôt on est dans la sagesse et au contraire on est dans la folie, mais à une seconde près, quoi. Et c'est ça que permet, c'est une série de petites catastrophes qui jusqu'à la catastrophe finale, quoi.
Platon n'aimait pas la tragédie parce qu'il en connaissait la puissance et qu'il la redoutait, qu'il la considérait comme un ennemi de la politique précisément. Alors dans l'extrait qu'on a entendu, on a entendu la liste des exploits qu'a accompli Jason avec l'aide de Médée. Elle l'a aidé à obtenir la toison d'or, elle a trahi son père Aïétès et sa patrie. Puis une fois arrivée à Iolcos, elle a fait mourir Pélias, donc l'oncle de Jason, des mains de ses propres filles. Elle passe aussi un peu vite. On sait aussi, nous on apprend que, en fait, on sait qu'elle va tuer ses enfants, mais qu'elle a déjà commis plusieurs meurtres avant, dont celui de son frère.
Son frère qu'elle a tué, dès qu'elle a jeté les membres comme ça, un peu en les dispersant pour ralentir les poursuivants. Oui, donc c'était.
Mais c'est déjà abominable. Enfin, je veux dire, là, on sait que c'est déjà une meurtrière.
Ah non, puis elle va l'être après, parce qu'elle va aller à Athènes, elle va vouloir tuer le fils d'Égée qui s'appelle Thésée, ça va rater, etc. Donc oui, non, alors elle échappe toujours. C'est ça qui est frappant. C'est une meurtrière et toujours elle arrive à s'en sortir. Quelles que soient les monstruosités qu'elles font. Et là, les dieux vont l'aider, vont lui donner à la fin un char avec des dragons, et donc elle va s'envoler dans l'air, ce qui, pour les metteurs en scène, est un casse-tête épouvantable,
oui.
Quoi. Je veux dire, ça, elle est transfigurée, c'est l'apothéose, là, elle est vraiment petite fille du soleil. C'est son être divin qui apparaît à la fin, alors qu'elle a, c'est la mortalité la plus dure qu'elle porte avec elle, c'est le cadavre de ses enfants. Mais qu'elle va mettre dans un temple d'Héra où il y aura un culte, ça sera comme Lourdes, un des grands lieux de pèlerinage pour les Grecs, le Laos. Mais alors, en un mot quand même, c'est un problème historique mineur, mais quand même, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est pas Euripide qui a inventé l'infanticide. Que c'est une innovation qu'il a faite. Ça, on n'a pas les documents, si on peut dire. Mais ce qui est frappant, c'est que normalement, ce sont les Corinthiens qui, parce que Médée a tué le roi et la rivale, là, vont tuer les enfants de Médée tout en disant que c'est elle. Donc, Ripide, il joue avec ça. Et là, il en fait une violente jusqu'au bout. Donc c'est peut-être que c'est lui qui a inventé cette histoire. Ça on ne sait pas. Mais en tout cas, ça change pas parce que les enfants sont tués et puis ils sont mis dans un sanctuaire.
Enfin, ça change pas. Je sais pas. C'est toute la question. En tout cas, c'est tout le mérite de cette pièce que de poser la question frontalement. Faut-il ou non tuer ses enfants? Voici la réponse du cœur, interprétée ici par Emmanuel Riva.
Mais arriver souvent de traiter des questions si délicates et de prendre part à des controverses si profondes qu'on interdit à la race femelle de s'y intéresser. Mais il faut savoir que nous aussi, nous avons une muse. Pour l'amour de la science, elle nous visite, mais pas toutes. Sur beaucoup, on ne trouverait qu'un petit groupe de femmes qui ne sont pas incultes. J'affirme qu'un mortel qui n'a aucune expérience de la procréation est plus avancé dans le bonheur que celui qui a fait des enfants. Les non-parents qui n'ont pas les moyens de dire si les enfants donnent aux hommes plaisir ou chagrin, puisque cela ne s'est pas trouvé, évitent des peines sans nombre. Mais ceux qui ont dans leur maison un doux printemps de fils, je vois l'inquiétude qui les tourmente à tout moment. D'abord, comment les traiter de la bonne manière? Comment trouver du bien à leur laisser? Et puis, travaille-t-on à en faire des gens ordinaires ou des hommes de valeur? On ne peut pas savoir. Et je vais dire un mal qui, pour tous les hommes, est le mal ultime. Supposons même qu'ils aient trouvé assez de bien, que leur fils ait atteint la maturité du corps et qu'ils soient devenus des hommes de valeur. Et alors, si c'est leur destin, la mort emporte les corps et prend la route de l'Hadès. Que gagne-t-on finalement à ce qu'en plus du reste, les dieux infligent aux hommes à travers leurs enfants ce chagrin qui est le plus cruel de tous?
Et toute la liste d'arguments donc en faveur du fait de ne pas avoir d'enfants, il est bien dit, un mortel qui n'a aucune expérience de la procréation est plus avancé dans le bonheur que celui qui a des enfants. Pourquoi un tel souci de cette démonstration, Pierre Judel Lacombe?
Alors d'abord, c'est émouvant d'entendre la voix d'Emmanuel Riva, ça fait tellement plaisir.
Ouais.
Alors c'est vrai que c'est extraordinaire parce que cette tirade du cœur, raisonnée apparemment, vient juste après un long monologue de Médée où finalement elle dit « bah oui, je vais les tuer ». Donc juste au moment où on arrive à l'horreur, on sait que l'horreur va s'accomplir, parce que Médée, j'ai pas le choix, je sais que c'est mal, mais je vais le faire, et on a cette tirade. Le choc, la différence de niveau, si on peut dire, est gigantesque entre le tragique, c'est-à-dire Médée tuant ses enfants, et là, une réflexion sur le bonheur, le malheur humain. Et je dois dire, alors ça a choqué beaucoup, on a dit, oui, Euripide, c'est plat, etc. Au contraire, c'est une générosité inouïe, c'est-à-dire que le cœur dit, ne parle pas du tout de Médée, d'ailleurs, parce que personne ne pourrait être Médée, personne des petits-fils, petites-filles du soleil, qu'on sache. Je veux dire, c'est l'expérience commune, et ce que fait Euripide dit, vous qui vivez ça, les enfants, avec la crainte de ce qu'ils vont devenir, la mort, etc., la chose la plus courante mais affreuse, c'est du même ordre que ce que Médée est en train de vivre.
Perdre son enfant, c'est comme le tuer?
Alors, non, c'est pas comme le tuer, mais c'est ce que vit Médée. Vous risquez de le vivre dans un tout autre domaine.
La mort
de ses enfants. Ouais. Vous allez connaître vous risquez de connaître dans la vie normale le même degré de souffrance que Médée impose et subit elle-même et que Jason va connaître. Donc c'est pour moi un acte de générosité, c'est-à-dire c'est pas la question être ou ne pas être comme Médée, mais vous voyez cet être mythique d'un passé révolu, etc., qui fait des choses que vous ne ferez jamais. Peut-être que vous allez tuer vos enfants, ça se fait, mais vous ne serez jamais dans la situation de Médée. C'est ça qui vous permet de comprendre ce qu'est en fait cette perte, cette crainte que vous avez par rapport...
Oui, mais alors ça met Médée dans la position de la victime. Or, elle est coupable.
Alors, elle est coupable et victime. C'est ça qui, comme elle est presque déesse, mais elle n'arrête pas de le dire. Je fais ça contre moi. Je fais Jason, je vais le faire souffrir parce qu'il n'aura pas ses enfants, mais c'est contre moi. Et tant mieux s'il souffre. C'est-à-dire qu'elle supprime sa propre vie, c'est ce qu'elle dit. Maintenant, c'est fini pour moi. Sauf que, alors c'est là où c'est comme on dit en philosophie, une contradiction performative, c'est-dire qu'elle dit je suis morte, alors qu'elle n'est pas morte. Mmh. Et du coup, elle va continuer.
Elle va refaire sa vie avec Égée, elle va avoir un autre enfant.
Qu'elle va vouloir massacrer son fils, etc. Bon, ça continue. À la fin, elle va se marier avec Achille dans un monde extraterrestre, si on peut dire, espèce d'outre-tombe bizarre. Je veux dire, donc, mais elle survit tout le temps. Et ça, c'est ça qui est passionnant dans ces personnages. Du moment qu'on parle, du moment qu'on est responsable, on peut dire les pires choses, faire les pires choses, mais on est toujours là. Alors que le pauvre Jason va être détruit, la fille du roi est détruite, etc. Les enfants meurent. Elle, c'est la survie permanente parce que elle sait dire le malheur. Et c'est ça qui fait qui est aussi le sien. Et c'est ça qui fait que ce personnage est passionnant parce qu'il est toujours projeté dans un discours de justification, tout en se contredisant. Mmh. Et donc il y a une force là, il y a une force vitale qui ne disparaît pas. Et c'est ça qui fait le drame. Elle peut être d'un côté comme de l'autre. Donc le cœur sera d'accord avec elle, et ensuite le cœur va dire « mais ce que tu fais, c'est horrible ». Et en plus, c'est affreux, parce qu'on va entendre des enfants mourir. On voit
« oui, on y arrive ».
Bon, d'accord. Donc c'est la force du personnage tragique qui est, comme dit Nietzsche, il est que sur scène.
Ouais.
Il est que ça anatomiquement, mais précisément c'est là tout ce qui fait sa force, et sa force divine, démoniaque, et en même temps moins qu'humaine ou simplement humaine, dans cette espèce de contradiction permanente. Et je trouve que là, ouais, on a quelque chose de surprenant. Ça n'a rien à voir avec de la psychologie.
C'est non, pas... mais et même pas. Ce qui est déconcertant, c'est l'absence totale de morale.
Alors,
c'est que je me retrouve à poser la question de la culpabilité. C'est moi qui vous dis, mais quand même, elle est coupable. Mais en fait, la pièce aborde à peine le sujet.
Évidemment qu'elle est coupable. Mais je veux dire, mais ça, c'est réglé. Dire que c'est ça, on le sait tout de suite. Et la nourrice dit dès le début, j'ai peur qu'elle ne fasse des choses horribles. Et elle dit aux pédagogues, surtout, mais pas les enfants du côté de leur mère. Donc on sait qu'elle va être coupable. Enfin, on sait qu'elle est coupable. Mais je veux dire, c'est pas le point. Là, Euripide est plus nietzschéen que Nietzsche ne le pense. C'est immoral. C'est l'immoralisme. C'est-à-dire, c'est quoi cette morale? Socrate dit, personne n'est, nul n'est méchant volontairement. Soit. Ben, moi, oui. Donc, c'est, bien, elle est fourbe, mais elle raisonne. Alors, ce qui est frappant, c'est que les drogues, qui vont servir quand même pour tuer la pauvre princesse, les drogues, ne sont que, là, sont transposées dans le langage. C'est le langage qui peut être un poison, et c'est ça qui est, donc elle va tromper Jason, elle va même les enfants, elle va leur dire vous partez pour une autre forme de la vie, c'est-à-dire la mort. Vous voyez, donc alors ça, Aristophane après dit mais toi tu dis que Euripide, tu charries, tu dis que la vie c'est la mort c'est la vie. Bon ben du coup tu restes aux enfers, donc tu vas pas revenir sur terre. Donc c'est la sophistique pour dire que à blanc et noir c'est la même chose, mais justement chez Médée c'est pas la même chose, c'est pas un problème logique comme comme Gorgias ou les sophistes, c'est vraiment un problème existentiel. Et donc il suffit d'être là pour dire. Donc la présence minimale scénique suffit, et ça, donc ça, du coup, ça et cette réduction du théâtre à la présence physique de quelqu'un qui parle, ça déchaîne des ouragans de sens, de tempêtes, etc., de vieux, de passion. C'est ça qui est grandiose, ces Euripides qu'on a dans les Bacchantes, etc. C'est hyper violent parce que les personnages sont là, comme Hippolyte. Qui lui lit des livres, donc lui il est vegan, etc. Il veut pas, bon, pas d'amour non plus, rien, tout ça. C'est un orphiste. Et ben il déchaîne les passions amoureuses. C'est ça qui est quand même. Donc la réduction crée au contraire une des explosions. Et ça c'est incroyablement fort, quoi.
Donc le but c'est d'être là.
Alors le but c'est d'être là, et donc finalement elle va fuir, et donc c'est une fuite permanente. Mais c'est rien aussi, parce qu'elle perd tout.
Mais elle renverse quand même, on disait, on a ouvert l'émission avec un extrait de la pièce qu'on qualifiait de tirade féministe, au fond, ce que c'est. Mais elle renverse quand même la fonction de la femme, qui consiste à donner la vie, cette fois-ci, et non pas à la reprendre généralement. Et là, elle la reprend. Est-ce que ça décuple la puissance de la femme, ou comment est-ce que ça...
Oui, c'est parce que, alors, donc elle donne la vie, donc elle la reprend, parce que, donc elle se mutile elle-même, ça c'est ce qu'elle dit, elle n'arrête pas de le dire. Alors il faut voir justement, dire que, donc alors c'est la passion amoureuse, mais c'est pas simplement une pièce sur la passion. C'est dire que elle a, en suivant Jason et en aidant Jason à devenir un héros, un vrai héros, elle se dépossède totalement de toutes ses identités. Je veux dire que elle n'est que la force qui a permis à Jason de gagner. Et c'est cette force-là qui se maintient alors qu'elle est d'abord amoureuse, ensuite elle passe à la haine. Je veux dire, et ça parce qu'elle se heurte à des mondes de conventions avec leur, dans la pièce, il y a trois mâles. Il y a Jason, il y a Créon, le maître, et il y a Égée. Alors, qui ont tous des côtés un peu crétins, mais je veux dire, ils sont aussi, bon, ils font rire, mais ils sont aussi dans leur fonction. de roi, de celui qui veut, qui doit être roi, et de celui qui est Égée, le roi d'Athènes. Donc il y a un éloge d'Athènes parce que on est en 430 avant Jésus-Christ, c'est le moment de l'apogée d'Athènes, si on peut dire. Donc juste avant les guerres, la guerre contre Sparte. Donc il y a une espèce d'éloge d'Athènes qui est un peu dérisoire parce que le pauvre Égée, il va se faire avoir, quoi. Mais ça c'est après. Mais donc c'est donc face à ces mondes de normes, de valeurs masculins, effectivement, elle les déjoue. Et ça, il y a un plaisir pour ces mâles, parce qu'il y avait aussi des femmes au théâtre, mais enfin, ces mâles dominants, il y a un plaisir à voir que, bon, finalement, une femme peut parler leur langage à eux, être plus fort qu'eux.
Et ça, c'est une spécificité d'Euripide, dont il y a beaucoup de personnages féminins dans ces pièces.
Alors, c'est d'Euripide, mais déjà, il y a Clytemnestre dans Échille, donc qui est, comme on dit, elle a une volonté d'homme, et elle sait parler comme un homme. Alceste, dans Euripide, juste avant, c'est elle qui sait parler de vertu, d'héroïsme.
C'est une femme qui s'appelle Alceste?
C'est une femme, oui. Oui, c'est pas...
C'est pas le misanthrope.
Non, c'est pas le misanthrope. Et quand même, alors, non, c'est chez Sophocle, qui est Antigone, quand même, qui elle est une...
Dont on parlera avec Anne Wiesmann, cette semaine.
Qui est une femme très dure, quoi. Donc, non, il y a quand même cette idée que, justement, et ça, c'est déjà un peu dans Homère, que, pour présenter ce monde de valeurs, de normes, non pas pour le valoriser, ça les Grecs n'en avaient pas besoin, on fait prononcer les valeurs masculines par des femmes, et du coup ça change complètement de sens, et ça montre que la politique, la morale ne savent pas intégrer ces dimensions de l'existence que représentent les femmes. Et donc c'est un vrai problème que pose la tragédie face au monde politique, où les femmes n'ont strictement aucun rôle à jouer, elles peuvent être prêtresses, etc. Dans la politique, pas. Et là, la tragédie, c'est pas une subversion, mais c'est un moyen de changer l'horizon, de dire voilà, la vie, ce n'est pas que ça. La vie, c'est aussi, ce sont les femmes, c'est le viol. Ça, quand on voit les prises description de la prise d'une ville, c'est incroyablement réaliste. C'est ce monde-là. Et comme dit Médée, les hommes disent que nous sommes des feignantes parce qu'ils ont un bouclier, etc. Ouais. Mais j'aimerais mieux avoir trois fois à la guerre que d'accoucher une seule fois. Donc cette douleur-là, ça c'est la base. Et comme dit Clytemnestre dans l'Orestie d'Échille, je tue Agamemnon parce qu'il a tué ma fille, mais au lieu de dire ma fille, il a tué la douleur de mon accouchement. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est toute cette réalité-là, pour Agamemnon, bon, il faut offrir la fille à Artémis, c'est normal, enfin c'est dur, mais c'est normal, elle dit non, c'est l'expérience directe. Et les femmes, donc, puisque là il y a une répartition, les femmes, c'est dans la tragédie, c'est comment l'expérience directe de la vie familiale, comme dit Antigone, se traduit en langage héroïque, en langage masculin. Et c'est cet arrachement qui crée la tragédie, de certaine manière. Ça c'est passionnant.
Mais est-ce que ça veut dire que ce qui empêche les femmes... j'allais dire d'être heureuse ou d'avoir un statut assez apaisé, c'est le fait d'enfanter. Enfanter est forcément un mal et forcément
alors,
une douleur.
C'est une douleur. Et c'est une douleur. Pour ça qu'il y a des déesses qui doivent être là pour aider. Je veux dire, c'est bon. C'était une douleur. Mais et surtout, alors pour les hommes, c'est fait. Ils se demandent justement ce que ça va être cet enfant qui naît, parce que comme il a fallu un principe d'altérité féminin pour faire l'enfant, bon ça, donc ils ont un peu les jetons. Mais je veux dire, c'est non. C'est-à-dire que justement, c'est la continuité, c'est la vie, mais je pense que c'est pas héroïque. Et ce que la tragédie fait, elle transforme l'accouchement et le fait d'élever les enfants. On voit avec Hécube, par exemple, ça c'est extraordinaire dans Euripide, quoi. Elle transforme la vie normale, la vie quotidienne, en vie héroïque. C'est-à-dire pour opposer ça aux hommes qui font la politique, qui font les affaires, qui font du commerce, qui font la guerre, etc. Elle dit non, c'est pas ça la vraie vie. Et ça, on voit ça même dans la comédie, il y a la même chose avec Aristophane.
Oui.
Et ça, c'est commun aux deux. C'est-à-dire que la vie réelle, le monde vécu, c'est un monde donc masculin, féminin. Et vous, votre discours officiel ne sait pas en tenir compte. Alors c'est pour ça qu'il y a les divinités féminines comme les Irinies, etc. Donc ça c'est passionnant. Toute la tragédie fait ressortir ça pour montrer, non pas pour, c'est pas subversif au sens où il y aurait un règne des femmes, ça c'est la comédie, mais pour montrer, voilà, vous ne savez pas ce que vous dites. Jason qui croit parler normalement ne sait pas ce qu'il dit. Il parle de l'amour, il dit voilà la jalousie, mais il sait pas ce qu'il dit. De même, Créon ne sait pas ce qu'il dit quand il parle de sa fille. Qu'est-ce que c'est que sa fille?
Alors que Médée, elle, c'est ce qu'elle dit.
Médée, c'est exactement ce qu'elle dit. Ça, c'est vraiment l'omnisciente qui est en même temps totalement impuissante parce qu'elle a comme solution simplement tuer ses enfants.
Alors justement, on y arrive, hein, c'est le final de cette pièce Médée, l'Exodus, toujours dans la mise en scène de Jacques Lassalle au Festival d'Avignon en 2000. Dans le rôle de Jason, c'est Jean-Quentin Puymartin. Écoutez cette scène qui est incroyable. Donc Jason découvre que Médée a tué ses enfants. Vous nous direz ensuite ce que le spectateur a vu, parce qu'évidemment, ça se passe pas sous les yeux du spectateur. Mais la façon qu'a cet extrait-là d'être écrit, justement, on a Jason qui parle, et Médée qui répond immédiatement. Lui est désespéré, et elle, alors c'est toute la question, est-elle dans une forme de triomphalisme ou au contraire de résignation? Écoutez l'extrait.
Tu me dégoûtes, impure tueuse d'enfants.
Va chez toi et enterre ta femme.
J'y vais. Privée de mes deux fils.
Tu ne connais pas encore le deuil. Attends d'être vieux.
Mes petits que j'adore.
Que leur mère adore. Pas toi.
Et tu les as tués.
Pour te désespérer.
Malheur. Je veux la bouche aimée de mes enfants. Je veux misérable me presser contre elle.
Maintenant tu leur parles. Maintenant tu les cajoles. Tout à l'heure tu les rejetais.
Laisse-moi. Au nom des dieux, touchez la peau douce de mes enfants.
C'est impossible. Parole pour rien.
Est-ce que ça a un nom, Pierre-Julien de la Combe, cette écriture avec vers après vers comme ça qui s'emboîte?
Oui, on appelle ça la stichomythie. Donc c'est la parole par vers, quoi. Stichos. Et alors effectivement là, ça, donc Jean-Quentin Chatelain là, il est surprenant. Parce qu'on pourrait le dire simplement sur un ton plaintif, géniard. Et lui là, c'est la tragédie, parce que bon, Médée est un personnage tragique puisqu'elle perd ses enfants, mais le héros tragique de la pièce, c'est Jason, parce qu'il passe du bonheur suprême, parce qu'il a une nouvelle femme, etc. Il va être roi, tout ça, il va faire des enfants. Bon, puis finalement, il accepte de garder ses enfants, puis il s'effondre. Et là, c'est dit justement. C'est là où on trouve la tragédie. Là, fallait oser. Faut oser même dire la tendre peau de mes enfants, le dire sur un ton. Faut le hurler. Ouais. Et ça, c'est la tension entre les mots et le ton qui est mis derrière, qui les porte. Et ça, c'est vraiment ça. C'est tout horripile.
Et à l'inverse, elle ne crie plus.
Alors elle non, parce que elle est sur son char. Alors donc.
Alors voilà. Dites-nous ce qu'on voit là.
Alors ce qu'on voit, c'est Jacques Lassalle. Je me souviens plus comment étaient les enfants, mais bon, peut-être des poupées, je me souviens plus. Mais simplement, Médée, elle était un peu plus haut. Lui, il est sur une barque, comme ces barques qu'on voit dans les marais près d'Avignon là. Donc il fallait s'entraîner pour qu'il se casse pas la figure. Et Médée un peu plus haut et habillé dans une espèce d'habit de lumière, de grande robe de lumière magnifique, c'est tout. Donc il n'y a pas de char, tout ça. Et alors Aristote a reproché à Euripide d'avoir mis un char en disant oui, c'est facile, Deus ex machina, c'est pour se débarrasser, de pas conclure. Non, là, alors qu'elle hurle au début comme une mortelle désespérée, et là elle est comme une déesse, effectivement, elle va s'envoler. Et donc elle est dans toute sa beauté, mais c'est ça qui, c'est une beauté liée à une contradiction, elle triomphe en perdant. Et c'est ça qu'elle sait, qui est si bien dit là. L'autre perd tout. En plus, tu vas voir, faut être vieux pour être vraiment dans le deuil. Donc lui, il aura une vie misérable. Il va finalement mourir assommé par un bout pourri de la nef Argo avec lequel il a fait son exploit magnifique d'aller prendre la toison d'or. Donc il va tomber avec un signe de sa victoire qui devient une espèce de pourriture. Et donc il aura la vie la plus nulle. Il est au-delà de la vie et de la mort, quoi. C'est vraiment, il est entièrement vidé de toute substance. Et elle triomphe, mais elle triomphe dans sa propre négation. Et ça, ça finit sur une contradiction ouverte. Et ça, c'est quand même grandiose, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fin heureuse, il n'y a pas, comment dire, on n'arrive pas à une synthèse après le conflit. On est c'est ouvert. Dans la douleur. Et en même temps, c'est dans une forme, parce qu'il y a la beauté de ce char avec les dragons, le soleil, etc. Donc c'est vraiment la contradiction. Euripide finit sa pièce, comme souvent, sur une image de tension.
Et en même temps, on pourrait dire aussi qu'elle redevient la déesse qu'elle a toujours été.
Elle redevient ce qu'elle a été, mais avec des cadavres. Donc c'est comme si elle-même avait fait le châtiment. Donc, puisqu'on dit dans la pièce, oui, faut faire attention. Le cœur dit, il faut pas se marier trop, parce que si on est trop orgueilleux, les dieux vous punissent et ça ruine les maisons. Et là, c'est elle-même qui a ruiné sa propre maison. Et donc, on peut pas conclure d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut pas tirer une morale de Médée. On a un exemple de la situation la pire qu'on puisse imaginer. Euripide travaille vraiment par situation. Il crée ces moments, et ça peut être discontinu, même au sein d'une même pièce, où là, on est devant un absolu, quelque chose de strictement indépassable. Et le plaisir tragique, ben on pleure quand on voit Médée ou quand on traduisait, on pleurait parfois tellement c'est émouvant, Myrto et moi. Je veux dire, le plaisir, c'est que la chose la pire a une forme. Il n'y a aucun éloge du pire. C'est pas un théâtre de la catastrophe en disant tout est noir, il faut aller vers l'abîme, etc. Ça c'est un peu vulgaire, ça. Non, c'est pas ça. L'abîme est là, de toute manière. Donc, et comme a dit le cœur, il suffit de perdre un enfant pour connaître l'abîme le plus grand qu'on puisse imaginer. Donc, dans la vie quotidienne, l'abîme est là. Or, quand c'est transposé dans le mythe, donc l'abîme prend une forme, et c'est ça qui est le gain de la tragédie. Donc on est transporté ailleurs dans ce monde mythique de la Corinthe de l'époque de Jason. Médée, donc elle, c'est l'Orient, c'est tout ça, c'est la famille de Circé, c'est le soleil qui se lève. Donc on est transporté dans cet âge d'or, mais en même temps pour vivre la chose la plus humaine et la plus noire possible. Et ça suffit. Il y a pas plus que ça, mais c'est grandiose parce que donc tout ce qu'on peut dire, là on a des êtres raisonnables. Créon est raisonnable, Jason est souvent raisonnable, même Médée. Et donc c'est sur fond de cet abîme, c'est pas l'idée que l'abîme est plus profond, c'est notre réalité. Et ça c'est de la philosophie, très mauvaise philosophie. C'est pas ça. C'est de dire donc, quand on vit, on est toujours dans une espèce d'existence précaire.
Donc la tragédie consiste à donner une forme à cet abîme.
À l'abîme, c'est vraiment ça. C'est ce que fait Euripide dans toutes ses pièces, quasiment. Donc que ce soit Phèdre ou les Bacchantes, etc. Alors que Eschyle, lui, a tendance plutôt parfois donc à dire un peu ce qu'est la guerre contre les Perses, ce qu'est le droit dans l'Orestie, ce qu'est la civilisation avec Prométhée, etc. Il est, de certaines manières, bon, j'aime pas dire ça, mais Eschyle est un peu plus philosophe. C'est-à-dire que Euripide, il a les philosophes avec lui, il a les grands intellectuels, il faut voir, il y a les Bourdieu, les Sartre, les Lacan, tout ça, qui sont là, Lévi-Strauss, enfin, pour pas tous les plus récents, bon. S'il y en a. Et donc, lui, il a ça. Donc, il a tous ces gens qui raisonnent, qui disent l'avenir, l'humanité, c'est ça. Il dit, tu parles. Alors, il prend tout ça, il accueille. Donc, son théâtre, c'est de l'émotion, mais c'est aussi le concept. Ça, il y a pas de contradiction pour un grec entre l'émotion tragique et le concept. Ça va de pair. Il dit, ben, voyons voir qui parle. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu fais des théories? Soit de la cosmologie, donc de l'Anaxagore, du Diogène d'Apollonie, on retrouve toutes ces références dans Euripide, même chose chez Sophocle. Mais là, alors, c'est un peu la même chose, mais ils ont des points de vue un peu différents. Les tragiques, ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire parler? Professer tout ça? Dire, se raccrocher à ses croyances, quand on sait que les dieux, alors là, c'est Médée, ont décidé tout autre chose. Ils ont décidé d'un destin qui est radical, qui est inévitable, qui échappe à toutes vos théories, là, même si derrière c'est la justice, etc. Mais le fait, la réalisation de la justice, est une chose horrible, dans le châtiment, etc. Donc il y a l'événement qui est au-delà de tout ce qu'on peut dire. Et la tragédie, elle est très philosophique, puisqu'elle absorbe tout ça, elle est anti-philosophique en disant « parle toujours ».
Mais ça veut dire que la tragédie est d'abord de la philologie? Une réflexion sur le langage.
Alors, c'est la vraie poésie, la grande poésie grecque. C'était une société du langage, une société orale. Les Grecs savaient chanter. On a calculé que un Athénien sur deux participait à un chœur de tragédie, de comédie ou les grands chœurs lyriques à Athènes. Donc, c'est énorme. Donc, ils apprenaient la métrique, tout ça. Ils apprenaient le langage. Ils avaient plein d'Homère en tête. C'est avec Homère qu'ils apprenaient le grec. Et donc, la poésie grecque, c'est une poésie, enfin, comme les autres, toutes les grandes autres, elle réfléchit sur ce que parler veut dire.
C'est ça.
Et en permanence. Et la tragédie, c'est ça. Sauf qu'au lieu que ce soit, comme chez les sophistes, une thèse, l'être n'existe que par le discours. Ils disent, tu parles.
Non, c'est qui? Tu parles, précisément.
Qui dit ça? Ouais. Nous sommes des êtres finis, et là, on va recourir au mythe. Le mythe fait que les histoires sont complètes. Un mythe finit toujours. Alors que les histoires humaines, on sait pas. Là, ils vont commencer la guerre contre Sparte, ils ont aucune idée de la manière dont ça va finir. Alors que dans le mythe, c'est clos. Et donc c'est un objet qui permet le mythe de réfléchir sur ce que, comment tout peut s'intriquer dans un, dans une histoire bien finie qu'on peut représenter.
Justement, jusqu'où peut-on la représenter? Là, on a parlé de la version d'Euripide. Si on prend des exemples beaucoup plus contemporains, il y en a eu énormément. Par exemple, le film de Pasolini avec la Callas, qu'il a choisi justement parce qu'elle incarnait ce qu'il appelle une sorte de personnage tragique qui viendrait d'un autre temps. Est-ce que cette la transposition, j'imagine que vous connaissez le film de Pasolini, oui. on a plus le temps d'écouter un extrait, mais est-ce que ça fonctionne selon vous?
Alors, moi, j'avais été fasciné par Oedipe Roy, par ce qu'il a fait sur l'Orestie, là, donc c'est une espèce d'esquisse en Afrique, mais déjà, j'étais un peu déçu, parce que c'est magnifique, la Callas, évidemment, est grandiose, il a trouvé des lieux, tout ça, mais alors lui, bon, là, c'est, on est dans le, donc, après les Allemands qui ont vu du tragique, c'est, ça, c'est très protestant, voilà, le sujet humain, la liberté, etc. Lui, c'est lié au marxisme italien, je dirais, donc, il a fait une chose que je trouve, bon, c'est vraiment grand, c'est un peu simple en disant, il y a d'abord le monde du mythos, le mythe, et après il y a le monde de la raison, donc là c'est tourné à Pise, donc voilà. C'est un peu simple, mais sinon bon, c'est grandiose dans la réalisation. Je trouve qu'il a fait mieux avec Oedipe Roy, mais on peut faire, et il y a eu plein de Médée, et justement et des Médée comme personnages révolutionnaires, de même qu'il y a plein d'Antigone comme personnages révolutionnaires, et donc pourquoi pas, ça on est libre, donc Heiner Müller a fait Médée immatériale, etc. On peut faire des choses magnifiques avec Médée. Et simplement, parfois, ce que... Bon, Sénèque a fait tout à fait autre chose, là, c'est une vraie sorcière. Mais je veux dire, ce qu'on peut manquer, justement, c'est le coup de génie, je trouve, de Euripide, c'est cette transposition de la magie, la sorcellerie dans le langage. Et ça, c'est donc avec cette fête du langage, donc entre le cœur et les différents personnages, l'immense récit sur la mort du roi et de la fille, là, ça, c'est tellement beau, c'est tellement grandiose. Donc, on est à la fois dans l'horreur, mais en même temps, on entend ce que c'est que parler dans cette oscillation.
Qui parfois signifie aussi chanter. Donc on va se quitter avec un chant de la Callas, justement, qui interprète la Médée. Merci beaucoup Pierre-Judet de Lacombe d'être venu ce matin nous parler de cette pièce, nous donner envie de lire Médée. Parmi les différentes adaptations contemporaines, je peux citer aussi Médée voix de 96 de Christa Wolf, écrivaine de l'ancienne RDA, qui propose son interprétation aussi de cette Médée-là. Voici donc la Callas. La Médée de Cherubini, cette fois-ci chantée par Callas, pour terminer cette émission et passer le relais sur France Culture, les chemins de la philosophie, à la question philo du jour d'Aurélien Bélanger.
Tu les aimes tes cours de philo?
C'est vraiment très enrichissant.
Ça me demande encore un peu de pratique.
Bonjour Aurélien.
Bonjour chère Adèle.
Votre question ce matin est la suivante: faut-il aller mal pour faire une psychanalyse?
Alors, initialement, celle-ci a évidemment un rôle clinique. Les premiers cas de Freud qui donneront lieu à ses travaux canoniques, l'homme aura, Anna O, le président Schreber, vont spectaculairement mal ou articule, si l'on préfère, spectaculairement bien la grammaire de l'inconscient. Suivra d'abord à Vienne, puis en France, en Argentine et dans le New York de Woody Allen, l'incroyable vogue de la psychanalyse. De la psychanalyse envisagée comme un fait social, une pratique distinctive. On va chez son analyste comme on va au cinéma. La séance est un peu chère et un peu plus courte. Lacan invente même avec sa célèbre scansion le concept d'un entracte après lequel le spectacle ne reprend pas. Mais la psychanalyse comme spectacle, justement, à ses fans. On se raconte les brutalités de Lacan comme de bonnes histoires drôles. Un recueil en existe même, moins drôle qu'on pourrait s'y attendre.
Vous voulez dire que la psychanalyse, à un certain moment de son histoire, deviendrait une sorte de pur divertissement ?
Bah, c'est la sympathique folie, en tout cas, de la grande geste lacanienne. Avant l'essor de la planche à voile et du wingsuit, la psychanalyse aurait été l'un des premiers sports extrêmes auxquels la bourgeoisie aura goûté. On n'allait plus chez son psy pour aller mieux, mais pour se faire un peu peur. Personne n'a envie, en prenant l'ascenseur, qu'il dévisse de 5 étages, mais on va passer la journée à Disneyland pour se laisser tomber de joie dans la maison hantée. De même qu'on détesterait faire des cauchemars éveillés, mais qu'on ne déteste pas entrouvrir en plein jour les gouffres de l'inconscient.
Bon, c'est une conception un peu caricaturale de la psychanalyse, non ?
Bah oui, probablement, mais qui a le mérite de lui rendre sa théâtralité religieuse. Cela ouvre la séance sur quelque chose de plus grand que la cure. Il y a un usage métaphysique de la psychanalyse, c'est un phénix qui renaît à chaque rendez-vous, comme pour mieux réduire le monde en cendres. Les deux infinis que Pascal tenait en laisse comme des démons destinés à dévorer le monde, on les retrouve ainsi dans les dents du hachoir lacanien de la scansion, les deux crochets d'un serpent borroméen qui vient empoisonner le monde extérieur pour mieux l'avaler d'un coup. Et ce n'est pas l'inconscient qu'on libère pendant la séance, c'est le monde qu'on emprisonne et qui se débat, frémissant et progressivement gagné par la mort, dans la gorge de l'analysant. Il est là, le rituel incomparable, le grand frisson de la psychanalyse, cette doctrine gnostique qui nous enseigne que ce monde est faux et qu'il n'y a de réel que l'inconscient. Cette prodigieuse machine fantasmagorique, ce logos tout aussi capable que le verbe divin de libérer un monde de sa gangue illusoire, qu'elle soit physique ou psychologique, pour lui donner une forme plus aboutie et plus libre. Il faut rendre la psychanalyse à l'histoire du spectacle et à l'intérieur de celle-ci, bien lui attribuer sa place. C'est un spectacle religieux, comme il y a eu de la peinture d'autel, de celle qui montre, comme chez Rubens, Saint-François et Saint-Dominique sauvant un monde que le serpent est prêt à engloutir. Sauf que ce serait ici le serpent qui devrait sauver le monde de ces figures anthropomorphes de la névrose.
Donc ce que vous dites, Aurélien, c'est que c'est pas pour aller moins mal qu'on entreprend une psychanalyse, mais par fascination pour le mal.
Bah oui, ce serait l'une des méthodes qu'il existerait pour réussir à se le représenter, ce qui, en soi, serait thérapeutique, en tout cas cathartique. Et d'ailleurs, les gens que je connais qui sont en analyse me disent tous qu'ils ne le sont pas pour eux, mais pour les autres. Pour supporter qu'ils aillent aussi mal et qu'ils soient autour d'eux comme des fantômes mécaniques, la psychanalyse est bien un dispositif de projection.
Merci Aurélien Bellange. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda réalise pour vous cette série d'émissions autour de la tragédie, des tragédies antiques. Jean-Frédéric, vous l'aurez reconnu, était à la prise de son ce matin. On se retrouve demain donc pour la suite de cette série. Demain, on sera en compagnie d'Olivier Py, qui viendra nous parler de Prométhée enchaîné. Ce sera l'occasion pour lui de se demander si Prométhée n'était pas le premier prisonnier politique. Une autre perspective, donc ce sera demain à 10h. D'ici là, eh bien, vous pouvez réécouter cette émission sur la Médée d'Euripide en compagnie de Pierre Judet de Lacombe en vous rendant sur le site de France Culture, des Chemins de la Philosophie, où vous trouverez toutes les indications bibliographiques concernant cette émission, les ouvrages écrits par Pierre Judet de Lacombe. Vous pouvez également télécharger cette émission, la podcaster en téléchargeant par exemple l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct ou bien donc en différé, comme ça vous l'écoutez où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve donc demain à 10h précise. Nous, on sera là, mais vous, d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.